Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
C'est la main verte, ça se passe aux États-Unis ce matin. Il n'y a pas que les séquoias là-bas qui souffrent du réchauffement climatique.
Et oui, c'est exact. Et un autre végétal tout aussi symbolique que les conifères géants risque fort de disparaître si le climat ne s'améliore pas ou du moins ne se stabilise pas. Son appellation botanique est Yucca brevifolia, mais il est plus connu sous le nom d'arbre de Josué. Il ne pousse qu'en Amérique du Nord et le plus souvent dans les régions désertiques. Sa croissance est lente, très lente. Et elle dépasse rarement les 10 cm par an. Adulte, l'arbre de Josué atteint en moyenne une petite dizaine de mètres et il atteint 200 ans.
L'arbre de Josué, à quoi ressemble-t-il et pourquoi ce nom ?
Alors, il est toujours très difficile de décrire un arbre. Alors, pour simplifier à l'extrême, je dirais que l'arbre de Josué est en apparence une plante avec un tronc de cactus et des feuilles de palmier. Il paraîtrait qu'il est ainsi nommé pour sa silhouette qui ferait penser aux Mormons, c'est eux qui l'ont ainsi baptisé, à Josué les bras ouverts et accueillant Josué étant l'un des personnages principaux du livre de l'Exode, le second livre de la Bible.
Cela dit, Alain, comment une plante habituée aux températures extrêmes peut-elle souffrir du réchauffement climatique ?
Il est vrai que cet arbre apprécie la chaleur et qu'il est même devenu le symbole du désert de Californie. Mais depuis quelques années, la sécheresse sévit dans cette région d'Amérique. L'absence d'eau est principalement gênante pour la reproduction de l'arbre de Josué qui ne fleurit qu'après les pluies printanières. Et quand on sait que pour la seule année 2002, il y a 15 ans à peine, il a plu 4 fois moins que l'année normale, on comprend le problème. Maigre consolation, les précipitations de l'an dernier sur la Californie furent assez importantes et ont permis, au moins pour un temps, à l'arbre de Josué de se reproduire naturellement.
Alors, je comprends bien que l'absence d'eau pose un problème évident pour les plantes, mais en quoi l'élévation des températures dérange-t-elle un arbre qui est habitué aux grandes chaleurs ?
Pour deux raisons principales. La première est que si cet arbre a besoin d'eau au printemps, il a aussi besoin, toujours pour fleurir, d'un hiver froid. Et les hivers deviennent, dans cette région du monde, tous les ans, de plus en plus doux. La seconde raison, et c'est la raison principale concernant la disparition de ce végétal, est que tous les autres végétaux dans le désert ne supportent pas ces élévations de température et disparaissent les uns après les autres. En conséquence, tous les rongeurs du désert, et il y a des lapins, il y a un tas de petits rongeurs, eh bien, ils sont nombreux à se retourner vers l'arbre de Josué pour se nourrir et surtout boire l'eau contenue dans le tronc. Donc, ils souffrent considérablement de lait des incisives, des petites bestioles. Ajoutez à cela la présence de scolites, ce sont des insectes qui prolifèrent lors des grandes sécheresses, et vous comprendrez pourquoi, eh bien, l'arbre a quantité de difficultés à se reproduire et à survivre. Sachez que rien que pour les 3 dernières années, 20%, c'est considérable, de ces arbres ont disparu.
L'arbre de Josué, si j'ai bien compris, c'est une forme de yucca, donc.
Tout à fait. C'est vraiment comme une sorte de grand cactus, qui ouvre ses bras avec l'extrémité semblable à des feuilles de palmier, donc des feuilles de yucca.
Et pour vous, l'homme du jour, Alain, c'est un botaniste, Joseph de Jussieu.
Et oui, on parle toujours de Bernard de Jussieu, qui a donné son nom à une grande université parisienne. Eh bien, on oublie souvent Bernard de Jussieu, qui fut un éminent... qui fut un très éminent botaniste. Il est parti pendant 30 ans au Pérou. Il y est d'ailleurs resté pratiquement tout au long de sa vie. Et cet homme a travaillé, a herborisé. Et aujourd'hui encore, ses herbiers, conservés au Muséum d'Histoire Naturelle, continue d'être étudié par les scientifiques. Alors j'avais simplement envie de saluer la mémoire de cet homme qui est né en 1704, un 3 septembre, comme aujourd'hui.
Un 3 septembre, j'allais dire bon anniversaire, j'allais dire une bêtise.
on peut le dire quand même.
Alain, vos réponses aux questions des auditeurs, question de Jacques qui nous dit « J'ai effectué un semis en godet, un semis de graines d'orme. Les pousses font maintenant 50 cm, faut-il les rempoter ou puis-je les mettre ?» En pleine terre.
Il faut être prudent, on sait que l'orme est un arbre superbe. Je dis est un arbre, je devrais dire était un arbre superbe parce qu'il a été sujet à une très grave maladie qu'on appelle la graphiose. La graphiose, c'est un champignon qui est véhiculé par un insecte, un scolite. Et les populations d'ormes à travers la planète ont pratiquement disparu. L'orme est un arbre en voie de disparition. Et l'idée de reproduire ce végétal est une très bonne chose. Alors quand on a obtenu des semis avec succès, 50 cm, c'est un jeune plant, j'allais dire déjà important, on peut directement le mettre en pleine terre. On attendra bien sûr l'automne pour le faire. On n'oubliera pas de l'arroser copieusement. On n'oubliera pas, si on habite à la campagne, de mettre mettre un pochon pour le protéger. Là encore, on en parlait avec l'arbre de Josué, mais des incisives, des petits lapins qui se délectent des jeunes écorces. On fera attention aux chevreuils, s'il y en a également dans la région. Petite astuce d'ailleurs pour éloigner les chevreuils, mettez des miroirs dans le jardin. Le chevreuil, quand il voit son image, a peur et il fuit.
Comme vous.
Oui, tout à fait. On peut se tenir à distance des bestioles sans avoir envie de les tuer. Et attention, surtout, on ne taille pas les jeunes plants. L'orme, aujourd'hui, souffre considérablement de la maladie. On le met en place, on l'arrose, on le regarde et on n'y touche plus.
Annie vous demande, mon cher Alain, ma fille m'a rapporté de Madère des graines de Massaroco, mais je me demande si cette plante n'est pas invasive. Elle précise, Annie, qu'elle habite en Corrèze.
Alors, évidemment, sur Internet, quand vous apprenez ce qu'il en est de la vipérine de Madère, c'est l'autre nom du végétal, les spécialistes diront l'Echium fastuosum. Vous voyez qu'il faut également de temps en temps satisfaire les botanistes. Alors, on vous dit que cette plante, effectivement, risque d'être invasive. Alors, sachez déjà que c'est une très jolie plante qui peut atteindre 1,50 m de hauteur, qui fleurit. Elle a des épis dressés bleu-violet, absolument superbe. Quand on sait que cette plante se propose, j'allais dire, se plaît à partir de 5 degrés minimum.
On va redonner son nom, c'est le Massaroco. Hein.
Oui, tout à fait. Et quand on sait donc que cette plante, même dans les régions les plus chaudes, est gélive et qu'elle ne se plaît qu'avec des températures supérieures à 5 degrés, on n'est pas très inquiet parce que, très honnêtement, les plantes en France gélives capables de proliférer, je n'en connais pas beaucoup.
Question de Colombe qui vous demande comment soigner mes cornouillers qui semblent atteints d'anthracnose.
L'anthracnose est une maladie cryptogamique et là encore, chaleur, humidité égale champignons. Eh bien, que faire ? Se rappeler égale déjà qu'on plante toujours les plantes à distance respectable pour que l'air puisse circuler. À partir du moment où l'air peut circuler d'un végétal à l'autre ou même dans la ramure. À partir du moment où le soleil baigne l'intégralité du végétal, les risques d'anthracnose sont carrément réduits. Quand on le plante en caisse, on prévoit un drainage. On évite également de trop tailler les végétaux. On en parlera d'ailleurs à l'occasion parce que la taille est souvent affaiblie et logiquement on n'a pas de problème. Là, il y a de l'anthracnose, que faire ? Traitement simple, le purin de prêle est efficace. On pulvérise cette décoction tous les 10 ou 15 jours en moyenne. Et on devrait y arriver.
Le purin de prêle. Merci pour tous ces conseils. Alain Baraton, vous revenez samedi prochain.
Avec plaisir.
Avec plaisir partagé.